Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 1er août. Vous êtes en compagnie aujourd'hui de Bertrand Tunganamé et Christophe Mallet. Au sommaire de cette édition du 1er août, eh bien, 1er août 1936, eh bien, ce jour-là s'ouvraient les Jeux Olympiques de Berlin. Nous allons en reparler dans le programme. Au programme aussi, nous allons parler cinéma avec un film disponible sur la plateforme SBS On Demand et le film de la semaine, Le mari de la coiffeuse. On parlera musique également avec le lancement d'un nouvel album, un album donc dédié au confinement. Mais avant tout, l'actualité de ce samedi 1er août. L'Australie recense un total de 200 morts du Covid-19 avec le décès hier de 3 personnes au Victoria et 1 mort en Nouvelle-Galles du Sud, ce sur fond de polémiques sur l'efficacité du confinement à Melbourne. La France et l'Italie arrivent à un accord pour lutter contre l'immigration clandestine le long de leurs frontières communes. Et l'église Sainte-Sophie célèbre son premier grand événement sur le calendrier du culte musulman depuis sa reconversion en mosquée il y a quelques jours. Près de 400 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés hier au Victoria, malgré une baisse de cas comparée à 700 nouveaux cas qui avaient été recensés la veille. Une vive polémique continue concernant les conditions strictes du confinement à Melbourne et dans les environs. Melbourne et le comté de Mitchellshire sont entrés hier, donc dans la troisième semaine, ont terminé hier la troisième semaine d'un confinement qui devrait durer 6 semaines. Les autorités du Victoria refuse d'alléger les conditions de confinement au vu de son inefficacité apparente. Daniel Andrews, le premier du Victoria, a indiqué que le nombre de cas recensés reste élevé, tout en soulignant que son plus grand souci, c'est le mode de contamination parmi les communautés.
49 cases where we simply cannot track back what the index case is, what's the zero case, where did it start, where did those people get it from. Now the challenge with that, of course, is they are a mystery.
Entre-temps, on a déploré hier 3 nouveaux décès du Covid-19 au Victoria, ce qui amène le total des décès au Covid à 200 pour l'ensemble de l'Australie. Et pendant ce temps, la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 17 nouveaux cas de Covid-19 dans la journée d'hier et a déploré un décès. La victime aurait contracté le virus au cluster lié à l'hôtel des Crossroads à l'ouest de Sydney. Entre-temps, d'autres pubs du nord et du nord-ouest de Sydney ont dû fermer leurs portes sur ordre des autorités sanitaires. Et l'adjoint du médecin en chef du gouvernement australien souligne que le nombre croissant des cas de contamination observés cette semaine inquiète les autorités. On souligne qu'un abattoir d'où était partie une vague de contamination à Melbourne a enregistré hier un nouveau cas de Covid. L'établissement Cedar Meats a signalé qu'un de ses employés a été testé positif et l'ensemble du personnel de son personnel ont été placés en isolement jusqu'à nouvel ordre. Le professeur Michael Kidd, donc qui est le médecin en chef, l'adjoint du médecin en chef du gouvernement australien, précise que la situation n'est pas aussi désastreuse que dans d'autres pays, mais elle reste néanmoins alarmante.
This has been a very difficult week, and there will be more difficult weeks to come as we continue to live with COVID-19. My advice to you is that things will get better, but it won't happen overnight.
Entre-temps, le Queensland a fermé ses frontières aux personnes venant de Sydney à partir de minuit, donc tôt ce matin. Et le Queensland souligne que plusieurs personnes en provenance de Sydney ont testé positif dans les dernières 24 heures. Et depuis la fermeture des frontières du Queensland, tôt ce matin, la police a arrêté 76 passagers sur de nombreux vols en provenance de Nouvelle-Galles du Sud. Et plus d'une centaine de personnes en provenance de Sydney ont été mises en quarantaine au Queensland. Le ministre de la Santé du Queensland souligne que depuis la fermeture des frontières, tôt ce matin, plus de 6000 véhicules ont été contrôlés, dont 80 ont été refoulés.
Police are checking vehicles. They will be caught, and the penalties are significant. Police also advised that they visited 406 licensed venues last night. No fines were issued.
La France et l'Italie vont créer une brigade mixte à leurs frontières pour lutter contre les filières de passeurs qui y font transiter les migrants. C'est ce qu'a annoncé hier à Rome le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les patrouilles communes existent déjà entre les polices aux frontières des deux pays, mais cette brigade intégrée réunira pour la première fois au sein d'une structure spécifique des agents italiens et français placés sous commandement unique, a-t-on expliqué. Le cadre juridique et le lieu de casernement de la brigade, qui devrait être opérationnel dans 2 ou 3 mois, font encore l'objet de discussions. Et toujours en France, mais c'est surtout en fait à travers le monde, la débâcle du secteur aérien se poursuit au lendemain d'une perte massive annoncée hier par Air France. Et ceci a été suivi par donc une posture du gouvernement qui a affiché un soutien sans faille à la compagnie nationale. Le groupe KLM Air France a perdu 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre. Des pertes qui reflètent un secteur de transport aérien en plein effondrement sur le plan global à cause du Covid-19. Agnès Cacomore pour RFI donc nous décrypte la situation.
Deux grandes compagnies latino-américaines, la chileno-brésilienne LATAM et la colombienne Avianca, se sont placées en mai dernier sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Mais pour bon nombre de petites compagnies, c'est le clap de fin, comme pour les sud-africaines South African Airways et Comair, la britannique Flybe ou les branches autrichiennes et françaises de Level, l'une des marques du groupe IAG. Le groupe IAG, propriétaire notamment de British Airways et d'Iberia, qui cherche à lever des fonds pour faire face à d'énormes pertes. La crise pousse le groupe à se restructurer via notamment la suppression de 12 000 emplois chez British Airways. Des coupes aussi pour les Américaines, American, United et Delta Airlines. Pareil pour l'allemande Lufthansa, la britannique EasyJet, l'australienne Qantas, l'irlandaise Ryanair, la scandinave SAS ou l'islandaise Icelandair. Pour limiter la casse, certains pays volent au secours de leurs compagnies nationale.
Il faut souligner que la France et les Pays-Bas n'excluent pas de monter au capital d'Air France KLM, donc la compagnie Air France KLM. L'Italie et le Portugal ont déjà opté pour la nationalisation de leur compagnie de transport aérien. Et Matteo Salvini, l'ancien leader de l'extrême droite italienne, sera bientôt entendu par la justice pour séquestration illégale de migrants. Le Sénat italien a voté hier la levée de l'immunité de l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur italien. On se souvient que Matteo Salvini avait refusé le débarquement de bateaux de migrants avec des centaines de personnes à bord, dont une embarcation appartenant à l'organisation Open Arms. Écoutons la réaction de Oscar Camps, fondateur de l'ONG Open Arms, au micro de nos confrères de RFI.
Nous espérons et nous pensons que les gens doivent obtenir réparation. Au moins, il faut que justice soit faite. C'était une séquestration très dure avec 160 personnes qui avaient déjà beaucoup souffert, qui avaient été torturées, violées et pour beaucoup d'entre elles qui avaient été réduites en esclavage. Tous ces gens avaient besoin d'assistance médicale et psychologique de manière urgente, mais ils n'ont pas pu la recevoir pendant 21 jours. Pourtant, nous avions une décision de justice favorable qui avait annulé le décret de Salvini qui nous permettait de pénétrer dans les eaux italiennes et débarquer dans un port italien pour des raisons de sécurité. Je crois que le gouvernement italien use aujourd'hui des mêmes pratiques qu'à l'époque de l'ex-ministre de l'Intérieur Salvini. Il continue à compliquer la tâche des bateaux humanitaires. Il met beaucoup d'obstacles administratifs et immobilise le plus longtemps possible les bateaux. En une année, on a vu très peu de changements.
Et lancement hier des festivités du sacrifice dans le monde musulman. Les festivités dites du Eid al-Adha sont un des événements phares dans le calendrier du culte musulman. Ces festivités ont été marquées hier avec une prière dans l'ancienne église Sainte-Sophie à Istanbul, récemment reconvertie en mosquée. Comme le souligne Cerise Soudray-Ledoux de Soudre-les-Deux, des milliers de croyants s'étaient rendus sur les lieux dès l'aube pour ne pas manquer l'événement.
Le moment est sacré, c'est la prière de l'Aïd Bayram en turc, l'un des jours les plus importants de l'islam. Et à Sainte-Sophie, transformée en mosquée la semaine dernière, de nombreux fidèles n'auraient raté l'occasion de prier dans l'édifice pour rien au monde. Certains ont même attendu plusieurs heures pour être certains de pouvoir être à l'intérieur. Mustapha est là depuis très tôt ce matin.
Je voulais venir la semaine dernière, mais ce n'était pas possible car je travaillais. Nous sommes un pays musulman et moi, en étant musulman, je viens ici accomplir simplement mon devoir religieux.
Coronavirus oblige, nombreux sont ceux qui n'ont pas pu rentrer et se massent à l'extérieur, sous un soleil de plomb et au mépris des règles de distanciation sociale. Au milieu de la foule, Nazan, 54 ans, voile fleurie sur la tête, cherche du regard son mari.
Aujourd'hui, c'est Bayram, notre fête religieuse. Je voulais visiter Sainte-Sophie pour l'occasion et faire ma prière ici. Nous avions un manque en nous depuis des années. On ne pouvait rien voir de Sainte-Sophie, pas entrer. Ça me faisait mal au cœur de la voir comme un musée car les visiteurs rentraient avec des chaussures et ils piétinaient nos valeurs. Maintenant, c'est beaucoup mieux.
Et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui l'affirment, désormais, on va venir toutes les semaines.
Et un cessez-le-feu est entré en vigueur entre le gouvernement afghan et les talibans à l'occasion de la fête de l'Eid al-Adha. C'est le troisième cessez-le-feu depuis le début des hostilités, mais cette fois-ci, la trêve intervient dans des conditions très particulières. Comme le précise Yelena Tomic, la trêve qui est entrée en vigueur hier pourrait même déboucher sur un accord de paix entre les deux camps.
La trêve va-t-elle tenir? C'est une question que beaucoup se posent dans ce pays ravagé par des décennies de guerre. Quelques heures seulement avant le début du cessez-le-feu, 17 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée. L'espoir est pourtant là. Le président afghan Ashraf Ghani et les talibans ont fait savoir qu'ils étaient prêts à entamer des négociations de paix après l'Aïd. Ces pourparlers pourront commencer une fois l'échange de prisonniers achevé. Jusqu'ici, les talibans ont relâché un total de 1005 membres des forces de sécurité. Les autorités afghanes ont quant à elles libéré 4600 prisonniers et annoncé la libération prochaine de 500 autres. Certains prisonniers qui figurent sur la liste des talibans ne seront toutefois pas relâchés car considérés comme trop dangereux, a prévenu le président Ghani. Mais le chiffre de 5000 combattants relâchés sera atteint comme stipulé dans l'accord que les talibans ont signé avec Washington. Ces libérations suffiront-elles à satisfaire les exigences des talibans? Les prochains jours seront décisifs. Lors des deux précédentes trêves, en 2018 et en mai 2020, les insurgés étaient immédiatement retournés sur le champ de bataille.
On revient sur l'histoire. Eh bien, ce 1er août, le Bénin, ancienne république du Dahomey, donné c'est son ancien nom, eh bien, ce pays fête ses 60 ans d'indépendance. Une indépendance proclamée il y a 60 ans à Porto-Novo, l'ancienne nouvelle capitale, c'est la même, mais elle s'appelait à l'époque Porto Novo. Eh bien, Delphine Bousquet de RFI retrace l'événement en suivant le parcours de Cosme Dossa, le photographe officiel du premier président du Dahomey au Bénin, Hubert Maga, père fondateur de la République du Bénin.
Sur une des photos, on voit Hubert Maga souriant, en train de marcher, en agbada, une tenue traditionnelle blanc et écharpe aux couleurs du Dahomey. On le voit aussi posé avec son premier gouvernement, passé devant les représentants de la France et sur de nombreuses photos de groupe sûrement prises sur la terrasse de la résidence du gouverneur. Pour Franck Ogou, le directeur de l'EPA, ces clichés de Cosme Dossa témoignent de l'état d'esprit du président Maga ce jour-là.
On peut quand même lire aisément la joie qui animait le président Maga. On peut voir au-delà donc de la solennité de l'événement que c'était beaucoup plus une fête populaire. Et c'était beaucoup plus un président qui avait le sourire et qui était totalement relax. Le président Maga avec des officiels, avec des politiques béninois et français. Mais on peut aussi le voir à travers les photos, dans la foule, avec les populations, avec les enfants. On peut aussi voir le président en train donc de danser.
Cosme Dossa a suivi Hubert Maga jusqu'en 1963, ça a beaucoup compté pour lui, selon Franck Ogou, qui a connu le photographe décédé en 2013.
Il était très fier d'avoir immortalisé ces événements-là. Dans sa collection, les photos du président Maga occupaient une grande place. Et après son décès, il y a quand même une bonne partie de son fonds qui a été vendue par ses héritiers.
Heureusement, il reste quand même ses photos. Elles devraient être montrées pour la première fois au Bénin lors d'une exposition dans le courant du mois d'août.
Et en sport, quelques matchs de AFL qui ont lieu ce samedi. Eh bien, il y a le match entre North Melbourne et Adelaide. Et il y aura aussi également un match entre St Kilda et Sydney. Et le West Coast Eagles qui joueront contre Geelong. Et un coup d'œil météo pour ce samedi. Perth 19, Adelaide 17, Melbourne 17, Hobart 14, Canberra 15 degrés, Wollongong 18, Sydney 19, Newcastle 20, Brisbane 23, Cairns 25 et Darwin 31 degrés. Ceci termine ce journal. Avant de poursuivre, quand même, un rappel des titres de ce journal. L'Australie recense un total de 200 morts du COVID-19 avec le décès hier de 3 personnes à Victoria et 1 mort en Nouvelle-Galles du Sud sur fond de polémique sur l'efficacité du confinement à Melbourne. La France et l'Italie arrivent à un accord pour lutter contre l'immigration clandestine le long de leurs frontières communes. Et l'église Sainte-Sophie célèbre son premier grand événement sur le calendrier du culte musulman depuis sa reconversion en mosquée il y a quelques jours.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Nous sommes le 1er août et comme chaque semaine, retour sur les faits marquants de cette date. Ça s'est passé donc un 1er août, direction Berlin et l'année 1936, l'ouverture des Jeux Olympiques.
Cette musique est celle des dieux du stade, les dieux du stade, le film sorti 2 ans après les Jeux Olympiques de 1936, les dieux du stade, 1938, film de propagande réalisé par Leni Riefenstahl pour répondre à la demande d'Adolf Hitler et du régime nazi. Les images ont été tournées pendant les Jeux de 1936 qui se sont tenus du 1er au 16 août, Berlin 36. Berlin avait déjà été désigné une première fois pour accueillir les Jeux en 1916, mais il n'avait pas pu se tenir, ces Jeux Olympiques, en raison de la Première Guerre mondiale. C'est en 1931 que le Comité international olympique a confié l'organisation des Jeux d'été de 1936 à Berlin. Adolf Hitler n'était pas encore au pouvoir, il y est arrivé en 1933. À partir de là, la perspective de ces Jeux Olympiques de 36 est devenue une aubaine, une obsession pour le régime nazi, l'opportunité de montrer aux yeux du monde la puissance de l'Allemagne, sa force militaire, les Jeux utilisés comme un moyen de propagande, comme le montre le film « Les dieux du stade ». C'est 100 000 spectateurs pour la cérémonie d'ouverture, les saluts nazis, une histoire qu'a retracée également dans un documentaire critique, Franck Cassenti et Jean-Philippe Loustic, un film intitulé « JO de Berlin 36, la grande illusion ».
Le 1er août 1936, débutent à Berlin les 11e Jeux Olympiques organisés par Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich. Financés par le parti nazi, ces Olympiades n'ont d'autre objectif que de sceller la cohésion du peuple allemand autour de son Führer, Adolf Hitler, qui se prépare à mettre en œuvre ce qu'il a écrit noir sur blanc dans Mein Kampf, son programme politique qui annonce l'extermination du peuple juif et la mise à feu et à sang de toute l'Europe. Ces Olympiades, orchestrées et filmées par les services de propagande de Joseph Goebbels, comme une gigantesque mise en scène planétaire, sont destinés à présenter l'Allemagne comme une nation pacifique qui respecte les principes d'égalité et de fraternité de la Charte olympique. Sans la complicité active des dirigeants du Comité international olympique qui n'ont eu de cesse de manœuvrer en rassurant les gouvernements européens et américains, ces Jeux n'auraient jamais existé, pas plus que ces images qui ont fait le tour du monde.
2 semaines avant l'ouverture des Jeux olympiques de Berlin, a lieu à Berlin, mais dans le centre de Berlin, la première rafle opérée par les SS, où non seulement les Juifs vont être persécutés, mais aussi les Roms et les Tziganes, qui dérangeaient l'esthétique nazie. Il ne fallait surtout pas que l'Occident et que le Comité olympique voient ces choses-là.
À l'époque de ces Jeux de 1936, même le baron Pierre de Coubertin, qui est celui qui a relancé les Jeux olympiques modernes à la fin du 19e siècle, s'est laissé aveugler par Adolf Hitler. Le CIO, Comité international olympique, et les amoureux du sport ont quelque part adoubé Hitler, qui proposait des Jeux modernes, dynamiques. Ce n'est qu'une fois sur place, en cet été 1936, que chacun a compris que ces Jeux n'allaient être que propagande, des Jeux dans une atmosphère xénophobe et antisémite. Voilà ce que disait pourtant le baron Pierre de Coubertin avant ces Jeux de 1936.
J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues.
Durant cette quinzaine olympique dans le monumental stade tout en pierre de Berlin, les athlètes allemands ont tout raflé, ou presque, 89 médailles, dont 33 en or, loin devant les 56 médailles des États-Unis, symbolisées par les 4 médailles d'or de l'Afro-Américain Jesse Owens, un camouflé tout de même Jesse Owens pour Adolf Hitler, qui ne jurait que par la supériorité de la race aryenne. Pour bien comprendre l'atmosphère particulière de ces Jeux de 36, le témoignage de Noël Van der Noth, recueilli par nos confrères de Radio France. Noël Van der Noth n'avait que 12 ans et demi quand il a participé à ces Jeux de 1936, récoltant 2 médailles de bronze en aviron, lui qui occupait le poste de barreur sur les bateaux de l'équipe de France. Il était tout jeune, c'est donc avec ce regard de 12 ans et demi qu'il a vécu ces Jeux de 1936, tout à la gloire du Führer, des Jeux portés par les drapeaux nazis.
Hitler est arrivé à 4h pile, et alors après le défilé des délégations, alors en tête la Grèce, et la France, déjà le public commençait d'applaudir. Quand on est arrivé devant la tribune, bien entendu, on a fait le salut olympique qui se faisait depuis toujours. Ça s'appelait à l'époque le salut de Joinville, mais qui se faisait non pas le bras tendu en avant, comme le salut naziste, non, on a tourné la tête pour regarder la tribune, puis on a tendu le bras. Oh là là, une explosion, alors là c'était... Oh là là, d'ailleurs, Hitler était surpris. Il a compris qu'il y avait une méprise de la part des gens qui croyaient qu'on faisait le salut hitlérien. C'est pas ça, mais eux ils pensaient que... Vous voyez, bref, après chaque victoire, et il y avait la cérémonie olympique protocolaire, on remettait les médailles sur un podium qui était sur le stade olympique. Tout le monde debout. Les Allemands, le bras tendu, fallait voir cette marée, c'était impressionnant. Nous, tout petits, au milieu de tout ça là-dedans, et ils jouaient l'hymne national allemand, et ensuite l'hymne des nazis. Ça, c'est interdit, normalement, on n'a pas le droit. Mais ils l'ont fait à chaque compétition. C'était long, et puis c'était impressionnant.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et puis elle s'en va. Et c'était les mêmes mots par Alain Bachung sur les antennes de la radio SBS de ce samedi 1er août. Et bien, nous allons encore à une petite pause, mais après la pause, donc restez avec nous, parce qu'après la pause, nous allons parler cinéma avec un film disponible sur la plateforme SBS On Demand. Le film de la semaine, c'est Le mari de la coiffeuse. À tout de suite.
SBS Radio.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Et comme chaque semaine, on va décrypter un film présent sur SBS On Demand. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de films sur SBS On Demand avec Laurent Auclair. Bonjour Laurent.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va impeccable. Alors cette semaine, on a un film qui vous tient très particulièrement à cœur. Je crois que vous avez adoré ce film. En tout cas, un film qui vous a marqué, c'est Le mari de la coiffeuse, un film de Patrice Lecomte.
Oui, alors c'est un film qui m'a vraiment presque envoûté quand je l'ai vu en 1990, quand c'est sorti. Donc c'est pas tout jeune. Mais c'est un film qui est, je trouve, d'une beauté, d'une tendresse nostalgique qui vraiment m'a marqué au moment où je l'ai vu la première fois. Et malgré le fait que j'étais sans doute un petit peu jeune, alors que c'est un film qui parle plutôt de la nostalgie sur une vie qui est passée, et sur des retours sur un amour et comment un amour se développe. C'est donc un très joli film de Patrice Lecomte, avec pour moi un de ses plus beaux castings, puisque c'est Jean Rochefort qui est au centre du film, qui est Antoine, qui est donc le mari de la coiffeuse, et Anna Galiena qui est la coiffeuse, qui s'appelle Mathilde. Et on est vraiment pratiquement juste entre ces deux personnages, du point de vue d'Antoine, qui est donc très très amoureux de sa femme, et qui nous raconte pourquoi il est devenu amoureux de ce type de femme, parce qu'il a eu une aventure quand il était très jeune avec une coiffeuse qui l'a marqué. Et puis il s'était un petit peu juré d'épouser une coiffeuse. Et quand il rencontre Anna Galiena, il va effectivement se marier avec une coiffeuse. Et c'est très joli dès le début, avec beaucoup d'humour et de nostalgie, je disais, sur les vacances d'enfance. C'est une scène, moi, qui m'a sans doute marqué toute ma vie depuis que j'ai vu le film, où on nous décrit au départ, Antoine se décrit quand il était enfant, quand il avait 12 ans, et qu'il allait en vacances à la mer, alors que sa mère lui avait tricoté un maillot de bain en laine. Donc, ce qui est absolument infernal.
Incroyable, un maillot de bain en laine, incroyable.
Voilà, exactement. Et donc, il explique par le menu tous les désagréments que ça peut lui causer dans des parties assez intimes de son individu. Et c'est fait avec une telle beauté, avec une telle poésie que c'en est extrêmement touchant.
Alors, Jean Rochefort, Patrice Lecomte, on parle d'un niveau de cinéma plutôt très haut quand même en France.
Oui. Alors, c'est vrai que c'est une des particularités de Patrice Lecomte. Il s'est toujours entouré de comédiens exceptionnels et il raconte toujours des histoires exceptionnelles de personnages assez ordinaires. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup dans le cinéma de Patrice Lecomte. Il l'avait fait avec des films comme Tandem, qui était déjà avec Jean Rochefort et avec Gérard Jugnot. Il l'a fait aussi avec La fille sur le pont, avec Vanessa Paradis, ou encore avec L'homme du train, où il avait fait jouer Johnny Hallyday. Donc vraiment des pointures, hein, des pointures qui, que ce soit des comédiens vraiment confirmés comme Jean Rochefort, ou des comédiens un peu moins confirmés mais très connus comme Johnny Hallyday ou Vanessa Paradis, bien que maintenant Vanessa Paradis est une actrice quand même connue internationalement, mais c'est vrai qu'à l'époque elle était encore la petite fille que tout le monde connaissait en tant que chanteuse en France. Et je trouve qu'il arrive toujours à donner à ses acteurs ces personnages très très sensibles, très émouvants, qui peuvent nous paraître ordinaires, et sans doute c'est pour ça qu'ils nous rapprochent tellement de ce que nous sommes, du spectateur que nous sommes, parce que voilà, ce ne sont pas des super-héros, ce ne sont pas des gens qui font des choses extravagantes, il n'y a pas d'effets spéciaux, on est vraiment dans la beauté de la vie naturelle et des sentiments qui nous animent tous. Et alors en particulier ici sur une histoire d'amour d'une beauté et d'une simplicité extrême, puisque c'est juste Jean Rochefort, donc ce personnage d'Antoine, qui, on a l'impression qu'il ne fait rien de ses journées d'autre que d'observer sa femme et de l'aimer. Et c'est assez troublant parce qu'on est pas mal dans le flashback, donc on nous raconte la voix d'Antoine, et alors c'est ça aussi qui est, moi, que je trouve très très beau dans ce film, c'est la narration par Jean Rochefort, cette voix qu'on a tous dans l'oreille si on est français et qu'on a vécu un petit peu en France dans les années 70-80, où il était dans beaucoup beaucoup de films, cette voix assez particulière qui là donne beaucoup de cachet à l'histoire et beaucoup de poésie aux mots qui sont exprimés à travers le scénario de Patrice Lecomte.
Alors on peut s'attarder un petit peu justement sur le personnage de Jean Rochefort et à quel point il manque aujourd'hui au cinéma français, mais à quel point il a marqué justement par une carrière plus que phénoménale en fait.
Oui, et je trouve que c'est vraiment C'est quelqu'un qui a réussi, en tout cas moi en tant que spectateur, à me surprendre à peu près toute sa vie. Parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, il faisait toujours un petit peu ses rôles de du mari de seconde zone, du type dont on peut abuser pas mal. Et il a réussi, tout en vieillissant, à vraiment changer ces types de personnages. Je me souviens d'un film qui, pour moi, a vraiment changé ma vision sur Jean Rochefort, qui s'appelait Barracuda, avec Guillaume Canet. C'était à l'époque où Guillaume Canet était très, très jeune. Et Jean Rochefort était à contre-emploi complet dans un rôle de psychopathe absolument ahurissant. Et tout d'un coup, j'ai découvert cet acteur d'une façon complètement différente. Et après, c'est vrai qu'il n'a jamais arrêté de me surprendre dans les choix de rôle qu'il faisait. Et je trouve que quelque chose qu'il a aussi beaucoup donné au cinéma français, c'est qu'il a donné beaucoup leur chance à des nouveaux réalisateurs. En s'appuyant sur lui, la stature d'acteur monstre qu'il avait depuis les années 70, il s'est accroché à des films qui sans doute n'auraient pas pu être faits financièrement s'il n'y avait pas eu son nom dessus. Et je pense que Barracuda était l'un de ses films. C'était un premier film de réalisateur avec Guillaume Canet qui était encore complètement inconnu à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est toujours appréciable quand les acteurs savent que leur carrière non seulement se fait sur le passé de leur talent, mais aussi qu'ils doivent trouver les nouvelles voies du cinéma, et en particulier ici du cinéma français.
Absolument, voilà, ça vaut vraiment le coup. C'est Le mari de la coiffeuse, The Hairdresser's Husband. C'est dur à dire ça quand on est français. Alors, c'est un peu compliqué, il y a un peu beaucoup de H là-dedans. En tout cas, un très beau choix par vous, Laurent. Merci.
Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, voilà. On se retrouve dans quelques instants pour le reste du programme. Vous écoutez Le Français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Et c'était Match Nul, un morceau de Eloquence avec Kayla. Et on continue avec la musique sur les antennes de la radio SBS, le programme en français de la radio SBS. Cette fois-ci, on va parler de la sortie d'un nouvel album dans un entretien entre Christophe Mallet et Lily Boyce.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Alors aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on a le plaisir de recevoir Lily Boyce. Surtout, c'est la voix d'un groupe qu'on connaît d'ailleurs en Australie, Deluxe. Bonjour.
Salut.
Alors, on vous connaît parce que vous êtes déjà passé chez nous en Australie, à travers une tournée mondiale. Et puis là, vous sortez un nouvel album qui a un titre « On ne peut plus 2020 en confinement », ça s'appelle.
Absolument. C'est une petite marque historique dans notre discographie.
Alors, parlez-nous un petit peu de la genèse de cet album, parce que forcément, comme tout le monde à travers la planète, il y a eu des sessions de confinement. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans notre programme, mais ça pose problème quand on est musicien, surtout comme vous qui tournez beaucoup.
Forcément, oui. C'est la tournée, notre principale activité. C'est pour la tournée qu'on fait de la musique et qu'on fait des albums. Et donc forcément, notre tournée a commencé en mars 2020. Donc forcément, on a vu toute la tournée de l'été s'écrouler et on voulait rester actif et on était chaud et remonté comme des horloges. On était très très chaud de pousser notre nouveau spectacle et du coup, la seule solution, c'était pour garder le projet un peu vivant durant le confinement, c'était de faire ces sessions de confinement. Et finalement, s'il s'est passé tellement quelque chose de magique avec nos auditeurs qui étaient coincés chez eux, qu'on s'est dit qu'à la demande populaire, on a décidé de le sortir en album.
Comment vous avez réagi quand c'est passé tout ça ? Parce que c'est un peu tombé sur le coin du nez de tout le monde. Mais c'est vrai que vous aviez toute une série de tournées, de concerts dans une tournée qui allait juste débuter. Bon, il y avait forcément eu un creux de la vague. Mais après, on est obligé de se réinventer très rapidement, en fait.
C'est ça. C'est stressant d'avoir à se réinventer. alors qu'on avait déjà, on avait vraiment fait des résidences, on avait répété un spectacle qu'on ne verra peut-être jamais tourner. Mais bon, c'est le jeu de la vie, on est tous un petit peu dans la même galère et d'être confiné, finalement, c'était le moment le plus important pour être présent, pour être productif, enfin, pour faire de la musique, pour partager ce qu'on avait à faire, quoi. Plus que jamais, c'était important. On était déprimés, hein, mais finalement, ça nous a occupés, ça nous a motivés. Surtout, les retours étaient tellement, tellement encourageants, tellement sweet.
Alors, comment on transfère un groupe comme le vôtre qui est quand même très présent sur scène? Il y a du monde, hein, dans le groupe de Deluxe. Il y a aussi beaucoup de jeux au niveau des lumières, c'est de l'électro. Donc, il y a vraiment une présence sur scène. Comment on transfère ça dans son salon?
On se met en condition, on se conditionne, on se dit allez, je ne suis pas seule, je ne fais pas ça face à mon ordinateur seule. on s'est un petit peu chauffé à se déguiser, pas en costume, mais on n'est pas allé très très loin non plus dans le déguisement, mais on était. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on est un groupe de 6 personnes et on a l'habitude de se voir tous les jours au studio depuis 10 ans maintenant. C'est-à-dire qu'on fait ça comme un autre métier. On se retrouve à 9h du matin et on part à 19h. Et là, c'est la première fois qu'on se retrouve tous seuls, en fait. Alors qu'on se rend compte qu'on s'est rendu compte qu'on était capable de faire de la musique ensemble et finalement de donner le meilleur de nous-mêmes individuellement, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et quelque part, c'était intéressant de voir qu'avec rien, avec le matériel minimum, chacun chez soi, on arrivait quand même à créer une petite effervescence de groupe. C'était seulement possible parce que justement, on a joué 10 ans ensemble, qu'on se connaît assez et qu'on connaît assez. On sent le jeu de l'autre, même si c'était pas très confortable techniquement.
J'allais y venir justement, vous vous connaissez depuis 2007, enfin vous tournez, vous existez depuis 2007, donc ça fait 10, 13 bonnes années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que le groupe Deluxe est un tournant, vous croyez? Est-ce que ça risque de changer les choses?
De quoi? Le coronavirus?
Ouais, voilà, le confinement. Enfin, la façon, je pense, ce que vous venez de dire, c'est que vous avez été capable de travailler séparément tout en vous connaissant très bien. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la création, par exemple, vous allez travailler différemment?
Oui, absolument. Depuis qu'on a déconfiné, on se réserve des temps pour continuer à travailler seul, chez soi, individuellement. Chose que certains du groupe faisaient déjà, mais là, ça fait partie de l'emploi du temps. On partage notre temps en deux temps, celui de répétition en groupe et celui de création, plus de création et plus d'introversion à la maison individuellement. En effet, ça a complètement changé. Ben, je pense que pour beaucoup, quelque part, du coup, on a découvert qu'on était pas mal en télétravail, hein, comme beaucoup de gens. Hein.
Et comme nous, hein, on a dû se réinventer à la radio. On fait de la radio de chez nous, en fait. Hein.
Et oui. Alors, c'est comment? C'est confortable?
Là, c'est la galère, honnêtement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous existez depuis 2007. Le groupe a forcément évolué. La scène électro a évolué. Mais il y a quand même une électro française qui existe et qui est présente à travers la planète.
Ah ouais? Ben, le groupe, les garçons se sont rencontrés au collège. Les plus jeunes et le basse et batterie se sont rencontrés carrément quand ils avaient 6 ans. Donc, c'est carrément l'école primaire. Et depuis, ils étaient un trio, basse, batterie, guitare au collège. Et ensuite, est arrivé le saxophoniste et le percussionniste au lycée. Et moi, je suis arrivée en 2010. Et au moment où je suis arrivée, ils jouaient déjà tous les 5 dans les rues d'Aix-en-Provence. Donc, à busquer, à faire le chapeau et à vendre des CD gravés à la chaîne. Donc voilà, ça, c'était notre réel... Je les ai rejoints à ce moment-là. Et en fait, c'était par hasard... Je les ai rencontrés dans la rue et je leur ai dit « Ah, moi aussi, je fais de la musique !» Et finalement, on est allé dans leur petit studio qui était une cave dans les sous-sols de Aix-en-Provence. C'était là que le batteur habitait, mais on appelait ça le studio. Et on a enregistré Pony. Et donc, c'était par pur hasard. Enfin, c'était de façon... Ça a été fait et enregistré de façon super naïve. Et finalement, c'est le morceau qui nous a fait le plus voyager de toute notre discographie. Et finalement, 6 mois plus tard, ils ont décidé qu'ils pouvaient peut-être avoir une fille dans leur groupe de garçons, dans leur boys band. Et ils m'ont invité à jouer avec eux. Et pendant peut-être un an, on a joué tous les 6 en ville, donc à Aix-en-Provence. Et on a un petit peu essayé de jouer ailleurs, mais à Aix-en-Provence, c'était confortable. C'était la maison. Les policiers nous avaient à la bonne et ne nous viraient pas tout de suite. Ils nous laissaient un petit peu jouer librement. Et de fil en aiguille, on a rencontré Chinese Man qui nous a produit notre premier EP. Polishing Peanuts, dont qui inclut le morceau Pony. Et par la suite, on a fini par faire notre propre label, et ça fait 10 ans qu'on fait des albums, mais pour retrouver la scène. C'est vraiment un prétexte. Ce qu'on adore, c'est être sur scène et vivre le moment, voilà.
Moment présent sur scène avec les gens.
Faire la fête.
Si on arrête, on va arrêter de parler du passé, on va parler de l'avenir. Vous allez retourner sur scène. France, ça se passe un peu mieux. A priori, la scène est programmée.
A priori. Après, il y a plein de pessimistes, de messages assez décourageants, mais nous, on n'arrête pas. On continue à se voir, on continue à faire des vidéos de déconfinement. Et on réfléchit à l'avenir. Si vraiment j'espère bien que la scène va reprendre comme en l'an 40, mais il faut quand même se laisser de la place pour réfléchir à, oui, du renouvellement, à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut continuer de faire. Même si, évidemment, c'est mon souhait le plus grand, c'est qu'on retourne vraiment en festival, dans les salles, tout comme avant. Mais bon, c'est dur à imaginer.
Ouais, c'est clair. Mais est-ce que ça veut dire que, la question qu'on a vu vous poser 1000 fois, mais avec un album en confinement, est-ce qu'il y aura un album déconfinement après ça?
Ah bah oui, bien sûr, bien sûr.
C'est tout trouvé, en fait. C'est obligatoire, presque.
Ah bah oui, carrément.
Vous avez déjà joué en Australie, je crois que vous êtes venu jusqu'en Australie. C'était comment, cette expérience? Parce que vous connaissiez super bien la scène française, certains pays à l'international. L'Australie, ça reste loin et ça reste pas francophone. C'était comment pour vous, cette expérience australienne?
Figurez-vous qu'on était vraiment très très étonnés. On avait déjà tourné dans des toutes petites dates. Non, on a fait peut-être quelques dates à Londres et Winchester et en Angleterre. Mais c'est la première fois qu'on vient dans un autre pays anglophone, et je sentais qu'il y avait une réaction vraiment très 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 intuitive. Que justement, de sortir de France et d'avoir une réaction justement anglophone à la musique, il s'est passé quelque chose de magique. Je suis persuadée qu'il faut qu'on y retourne.
Ah, nous, on vous accueille à bras ouverts. Hein. On a eu des bons échos, hein, par rapport à cette tournée.
Ah, c'était incroyable. On sentait comme on était inconnus au bataillon sur les festivals, mais que c'était intuitif. Il y avait pas grand-chose à faire, quoi. On était direct en communion avec notre public australien.
Ça marche. Bah, on vous attend. Merci d'avoir accordé un petit peu de temps pour Radio SBS aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous.
Et l'album s'appelle En confinement. Merci.
Merci.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
On reste dans le sujet du confinement et du Covid-19, mais cette fois-ci, on va faire un petit tour en Guyane, où un nouveau logiciel a été mis en place, un logiciel de traçage. Reportage avec Isabelle Lerouge pour RFI.
Ordinateur et téléphone, les outils indispensables à tout conseiller de la plateforme. Enzo Rémy est l'un d'entre eux. Sa mission, identifier et isoler les personnes malades contagieuses et leurs contacts.
Il faut justement amener les questions avec un certain tact, puisque voilà, on rentre dans leur vie privée, on demande qu'ils ont été en contact, avec qui ils étaient.
Face à cet examen de leur vie sociale et intime, les personnes contactées font preuve de bonne volonté. Ce coup de téléphone, beaucoup en avaient besoin, comme le confie Ophélie Bonnecaze, une autre conseillère.
On essaye un peu de les rassurer sur la maladie, pour qu'ils soient vraiment plus sereins face à cette épidémie.
Prescription si nécessaire d'un test de dépistage, dotation de masques, délivrance d'un arrêt de travail, autant d'outils pour une investigation pas toujours facile sur les traces de la Covid-19. Christina Cueta est agent superviseur de la plateforme.
Si les coordonnées téléphoniques sont bien remontées, je dirais que ça peut aller facilement. Ou c'est compliqué quand il y a absence de coordonnées téléphoniques.
Sans oublier la barrière de la langue, heureusement, au-delà du créole et du français, plusieurs conseillers maîtrisent l'espagnol, le portugais, le taki-taki. L'équipe traite donc en moyenne 300 appels par jour. Une satisfaction pour Jean-Xavier Bello, directeur de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane.
On a mobilisé jusqu'à 33 personnes en fait, qui sont mobilisées sur cette activité. Et on est monté jusqu'à 80 personnes, si on compte les collaborateurs de l'assurance maladie aux Antilles et en métropole.
Le contact tracing est devenu l'une des activités principales des agents de l'assurance maladie. une activité liée à l'évolution de l'épidémie.
Et un rappel des principaux titres de l'actualité avant de nous quitter. L'Australie recense un total de 200 morts du Covid-19 avec le décès hier de 3 personnes au Victoria et 1 mort en Nouvelle-Galles du Sud, ce sur fond de polémiques sur l'efficacité du confinement à Melbourne. La France et l'Italie arrivent à un accord pour lutter contre l'immigration clandestine le long de leurs frontières communes. Et l'église Sainte-Sophie célèbre son premier grand événement sur le calendrier du culte musulman depuis sa reconversion en mosquée il y a quelques jours. C'est tout pour ce samedi. Merci de votre compagnie. Bon appétit si vous êtes toujours à table. Et à demain, vous serez avec Jean-Noël demain pour le programme en français sur la radio SBS. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.